Et maintenant, je présente Paul Ricoeur. Paul Ricoeur est né en 1913. Il est agrégé de philosophie et docteur ès lettres. Il est philosophe. Après avoir été professeur de philosophie en lycée, il est devenu, à partir de 1948, professeur d'histoire de la philosophie à la faculté des lettres de Strasbourg, puis, à partir de 1956, professeur de philosophie générale à la faculté des lettres de Paris. Il a également été professeur de philosophie à l'université de Paris 10 Nanterre et doyen de cette faculté. Enfin, il a été professeur de philosophie à l'université de Chicago. Outre son enseignement, Paul Ricoeur a été longtemps membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Il est spécialiste de philosophie morale et religieuse. Paul Ricoeur a reçu également de nombreux prix qui ont couronné ses travaux en philosophie. J'en mentionne quelques-uns. En 1985, le prix Hegel à Stuttgart. En 1990, le prix Karl Jaspers de l'université de Heidelberg. En 1991, le Grand Prix de philosophie de l'Académie française. Il m'est évidemment impossible de citer les nombreuses publications et même les nombreux ouvrages, les nombreux livres écrits par Paul Ricoeur. J'en cite quelques-uns seulement parmi les plus importants. La philosophie de la volonté, dans les années 1950-61, Histoire et vérité, en 1955, un essai sur Freud, de l'interprétation, Temps et récit, en trois volumes, en 1983, Soi-même comme un autre, un essai sur la morale, 1990, le livre d'entretien La critique et la conviction, en 1996, chez Kalman Levy, le livre Penser la Bible, avec André Lacocq au Seuil en 1998, et son dernier livre, La mémoire, l'histoire et l'oubli, au Seuil en l'an 2000. Je donne la parole à Paul Ricoeur.
Je vous remercie, Claude Asselin, pour votre présentation si cordiale. Chers amis, en acceptant pour titre de ma communication à ce prestigieux ensemble des conférences 2000 la croyance religieuse, j'ai choisi de lui adjoindre un sous-titre plus problématique, le difficile chemin du religieux. Je me propose, sous l'égide de cet intitulé, de transformer certaines objections et accusations adressé aux croyants, en difficulté intime à leur croyance même. C'est en particulier aux menaces d'intolérance et de violence contenues dans la croyance religieuse que j'ai voulu m'affronter, en faisant appel aux ressources d'autocritique que l'intelligence inhérente à cette croyance est capable de mobiliser. Je voudrais d'abord répondre à la question que je tiens pour préalable à toute la discussion. La question est la suivante. Quel est le destinataire du message religieux et donc le porteur de la croyance religieuse? Autrement dit, dans quelle région de mon existence suis-je atteint par la problématique religieuse? Je réponds ceci. C'est en mon désir d'être, dans mon pouvoir d'exister, que la flèche du religieux peut m'atteindre. J'ai adopté dans mes travaux d'anthropologie philosophique, par quoi je préfère me caractériser, une expression abrégée qui sert de titre à des analyses détaillées, l'expression « l'homme capable ». Sous cette expression, je rassemble toutes les figures de la puissance et de la non-puissance, telles que les signaux au plan du langage, l'auxiliaire verbe pouvoir. La puissance, c'est l'ensemble de ce que je peux. La non-puissance, la somme de ce que je ne peux pas. En un sens large du mot, il s'agit d'une approche du phénomène humain en termes d'agir et de pâtir, de praxis et de pathos. C'est ainsi que je désigne volontiers l'homme comme être agissant et souffrant. Je rappellerai brièvement les grandes divisions sous lesquelles je place l'examen des pouvoirs et des non-pouvoirs. Je donnerai ainsi une idée de l'ampleur de la problématique de l'homme capable. Quatre grandes rubriques méritent d'être considérées. Capacité de parole d'un locuteur qui peut dire quelque chose sur quelque chose à quelqu'un. Discours. Capacité d'action d'un agent incarné capable de produire des changements dans le monde, de faire arriver des événements. Capacité de raconter d'un sujet historique en quête d'identité narrative. Enfin, capacité d'imputation d'un sujet moral responsable des actes dont il se reconnaît être l'auteur véritable. Sous chacune de ces rubriques, des incapacités, des impuissances spécifiques correspondent au pouvoir dire, au pouvoir faire, au pouvoir raconter, à la capacité de s'imputer à soi-même la responsabilité de ses propres actes. Eh bien, c'est un tel être de pouvoir et de non-pouvoir, un tel homme capable, qui est le destinataire du message religieux. Je propose d'introduire la problématique religieuse à la façon de Kant dans la religion dans les limites de la simple raison, qui se fait à partir d'une méditation sur le mal. Nous allons voir dans un instant que ce n'est là qu'une voie d'accès par ce qu'on pourrait appeler la face négative du phénomène religieux. Mais cette approche a le privilège de faire paraître le religieux au cœur de la problématique de l'homme capable. C'est en effet à une incapacité spécifique que le religieux offre de répondre. D'un mot, l'incapacité de faire par soi-même le bien. Qu'on l'appelle volonté mauvaise, libre arbitre captif, serf arbitre, il s'agit d'une expérience aisée à identifier. Elle est ressentie comme une ligature intime, comme de soi par soi. Cette expérience, que Pascal avant Kant appelle misère de l'homme, s'articule sur toutes les autres modalités de faiblesse, de vulnérabilité, qui font de l'homme capable un être fragile et, à la faveur d'une mystérieuse défaillance, d'un homme coupable. Que la problématique religieuse soit en outre susceptible d'atteindre l'homme à partir d'expériences de plénitude, on l'accordera volontiers lorsqu'on aura porté au jour la face de lumière du religieux. Mais la dramatisation que suscite une méditation sur le mal radical, à la façon kantienne, a le privilège de faire paraître le religieux à partir d'une faille, d'une défection, d'une cassure, au-delà de laquelle pourra être rétablie l'heureuse continuité entre les capacités nouvelles que suscite le religieux et les capacités les plus fondamentales constitutives de l'être homme. Afin de prévenir toute mécompréhension relative à cette entrée dans le religieux par le côté ténébreux de l'existence humaine et de préparer la redécouverte de sa face de lumière, je veux souligner avec force la distinction que Kant fait en fin de parcours de son traité sur le mal radical entre ce qu'il appelle la disposition au bien, qui définit le fond de la condition humaine, et la propension au mal qui régit la condition ordinaire des humains. j'insiste sur la différence de vocabulaire entre disposition et propension. Disposition au bien et propension au mal. La propension au mal constitue en quelque sorte la condition ordinaire de ce que Kant appelle, dans le langage qui lui est propre, les maximes mauvaises particulières, celles du meurtre, du mensonge, du vol, etc. Mais, aussi radical que soit le mal, il ne sera jamais aussi originaire qu'est la destination au bien. Cette distinction entre l'originaire et le radical ne cessera de nous accompagner. Elle anticipe sur ce qui sera dit plus loin de la face religieuse du phénomène, de la face lumineuse du phénomène religieux. On peut dire toutefois dès maintenant que le religieux aura fondamentalement partie liée avec ce fond de bonté originaire tenu captif et caché, en un mot, avec la libération de la bonté. Cela dit, quelles sont alors les ressources du religieux face à cette prévalence de la propension au mal dans l'histoire des individus, des communautés et des peuples? Dans la suite du traité « La religion dans les limites de la simple raison », l'analyse kantienne propose une triple articulation du phénomène religieux que j'adopte. Au plan des symboles d'abord, au plan de la croyance ensuite, au plan de l'existence communautaire, du vivre ensemble, enfin. Au plan symbolique, d'abord, la culture juive et chrétienne de l'Occident s'est structurée à partir d'un symbole central qu'on peut appeler en termes larges le symbole christique. Celui, dit Kant, de l'homme agréable à Dieu qui donne sa vie pour ses amis. Il n'importe pas pour une approche philosophique dans les limites de la simple raison de trancher la question de savoir quelle est la place de Jésus dans la suite des prophètes et si le Jésus de l'histoire est identique au Christ de la foi, ni même de savoir si le Christ de la confession chrétienne épuise les ressources de sens du symbole de l'agneau de Dieu célébré par le second Isaïe dans les chants du serviteur souffrant. Importe seulement l'implantation dans notre imaginaire de ce symbole qui excède nos capacités d'invention. Son avènement comme événement fondateur est si originel et si originaire que nous le trouvons désormais à l'œuvre dans sa capacité d'engendrement iconographique au sens le plus vaste du terme. Au deuxième plan, le plan de la croyance, qui est celui que notre titre privilégie ce soir, mais que notre analyse fait paraître en second rang, la croyance religieuse consiste dans un acte d'accueil à l'égard des prophètes qui ont annoncé la bonne nouvelle du symbole christique. Croire, c'est d'abord croire en la parole de ces autres qui témoignent en faveur de la puissance de régénération du symbole christique. Ce n'est pas d'abord adhérer à des contenus dogmatiques qui restent importants, mais faire confiance à la puissance bénéfique exercée par le symbole christique. Ici, croire en signifie plus que croire que. Et c'est dans cet intervalle entre croire en et croire que s'insère la polémique vigoureuse que Kant mène contre les dogmatiques. Mais il ne faudrait pas que cette polémique dissimule l'appréciation que Kant fait du phénomène nucléaire de la croyance, par-delà les querelles interminables des théologiens concernant le salut par grâce ou par les œuvres, le caractère externe ou intime de la grâce, etc. Au troisième plan, celui de la communauté. La pratique religieuse repose sur un rassemblement de nature essentiellement non politique qu'on peut caractériser en termes larges comme une entraide que se donnent les uns aux autres, les auditeurs et les interprètes du message contenu dans le symbole fondateur et de la croyance dans la puissance régénératrice de ce symbole. Que l'Ecclésia, que l'Église, ne soit pas une communauté politique centrée sur le phénomène du pouvoir, de la domination, et dotée de la capacité de contraindre, c'est là le point le plus délicat de la problématique religieuse. C'est aussi le moment où le ton polémique de Kant atteint son degré le plus extrême de véhémence contre la prêtraille, c'est son vocabulaire. Kant n'aura toutefois pas cédé à la tentation d'opposer une église invisible aux églises visibles, mais plaidé pour un dépouillement de puissance des églises visibles, dépouillement qui mettrait à nu la seule puissance du symbole sur l'imaginaire, de la croyance sur l'intelligence, de l'action fraternelle non violente sur la vie dans la cité. Il est possible maintenant de définir ce qui pourrait être appelé la finalité du religieux. Je ne crois pas m'éloigner de la ligne kantienne suivie jusqu'ici en disant que le religieux a pour fonction la délivrance du fond de bonté des liens qui le tiennent captif. C'est à cette délivrance que veulent concourir le symbole, la croyance et la communauté ecclésiale. Pour reprendre le vocabulaire initial de cette méditation, la problématique religieuse peut se résumer dans la capacité extraordinaire de rendre l'homme ordinaire capable de faire le bien. C'est en ce sens que l'homme capable est, comme il a été annoncé, le destinataire du religieux et le porteur de la croyance religieuse. Je voudrais, à titre de transition entre l'exposé de la problématique religieuse et l'examen des difficultés du religieux, dire quelques mots sur l'articulation du religieux sur le moral. Une telle réflexion s'impose dans la mesure où, d'une part, on définit le religieux par la capacité de faire le bien, et où, d'autre part, c'est à cette articulation délicate que s'insinuent des forces malveillantes capables de détourner le religieux de sa vocation fondamentale. Articulation délicate, vient-on de dire. En effet, il importe de délimiter avec précision les champs opératoires du religieux et du moral. Comme les médiévaux, caractérisant les concepts éthiques comme des notions communes, justiciables d'une légitimation distincte, comme Kant plaidant pour l'autonomie du sujet moral, je définirai l'expérience morale par le rapport primordial entre une liberté qui se pose et une règle qui s'adresse à un sujet capable d'imputation. C'est au niveau de cette articulation que se pose toute la problématique de la suite de cet exposé. Je veux dire l'articulation de la position d'un soi sur l'imposition d'une règle. Nous définissons ainsi l'expérience morale par l'autonomie, c'est-à-dire la jonction entre un soi, auto, et une règle, nomie. La capacité effective d'agir selon une règle, voilà alors le problème en suspens. Être capable de faire le bien. Kant en commence l'examen sous le titre des mobiles de la raison pratique et en réduit la liste au seul respect. Ne faudrait-il pas élargir la sphère des mobiles moraux, c'est-à-dire des impulsions à agir selon la règle, à une plus grande variété que le respect, à moins que l'on tienne le respect pour le terme générique d'une diversité de sentiments tels que la honte, l'indignation, le sublime, l'admiration, la vénération et plus que tout la reconnaissance de la dignité de l'homme dans son humanité commune. C'est alors au plan de ces mobiles que vient s'insérer la capacité de faire le bien engendrée par le religieux selon la triple membrure du symbole, de la croyance et de la vie communautaire cultuelle. Un penseur que j'admire, Paul Tillich, à qui j'ai succédé à l'Université de Chicago, a introduit à cette occasion le concept de courage d'être. Je vois ce courage opérer à la charnière du religieux et du moral. Non plus au plan des contenus normatifs, mais à celui de la capacité d'agir selon le bien connu. À ce courage d'être, j'ajouterai la valeur supra-éthique de l'amour, où s'exprime la surabondance du don par rapport à notre capacité d'accueil. J'y reviendrai pour finir. Mais l'amour ne saurait se substituer à la justice, encore moins dispenser de la justice. L'amour demande plus de justice. Il demande à la justice d'être à la fois toujours plus universelle et toujours plus singulière. C'est ainsi que le religieux s'ajoute au moral comme courage d'être et comme amour. Le courage d'être atteint l'homme capable dans son intimité solitaire, l'amour dans son altérité partagée. En commençant, j'ai formé le vœu d'affronter la polémique antireligieuse et les accusations d'intolérance et de violence adressées bien souvent aux gens religieux par les incroyants. Je le ferai en faisant appel aux ressources d'autocritique mobilisées par l'intelligence de la foi. Le témoignage d'histoire est assurément accablant. Persécution, inquisition, guerre de religion, contrainte sur les âmes et parfois sur les corps, intrusion indiscrète dans la sphère de la décision morale, privée ou publique. Le réquisitoire est incontestable. La question est alors de savoir si le religieux en tant que tel comporte l'occasion, ou pire, la tentation d'une violence spécifique qui mériterait qu'on parle de violence du religieux. Eh bien, c'est de violence symbolique que je veux parler à la source de la violence physique éventuelle. Je partirai de ceci. Une grande partie des faits de violence avérés tournent autour du sacrifice dans les religions archaïques. Sacrifice d'êtres humains, d'animaux, de plantes et autres végétaux, destruction d'objets consacrés. À son tour, le sacrifice, comme conduite et comme rite, reconduit au cœur du sacré, en tant que mise à part d'une sphère délimitée d'existence, séparée du reste des conduites dites par contraste profanes. Or, le sacrifice n'a pas disparu des formes évoluées des grandes religions historiques. Freud en a montré la persistance dans Moïse et le monothéisme. La messe catholique, par exemple, est centrée sur l'hostie consacrée, à la fois victime et offrande, et la liturgie confère structure et rythme à l'offrande et au partage par la communauté du corps brisé et du sang répandu. Une théologie sacrificielle circule dès le Nouveau Testament, où l'accent tombe sur l'aspect substitutif de la victime pascale en réponse à l'exigence punitive de rétribution prononcée par un Dieu justicier. Il est vrai qu'il existe d'autres courants d'interprétation de la mort du Christ où l'accent est moins mis sur la rétribution sanglante que sur la pure offrande de la victime, comme je vais avoir dans un instant l'occasion d'y revenir. On ne saurait néanmoins éviter le thème du rapport entre le sacré et la violence. Je propose, le problème étant fixé, de suivre quelque temps l'interprétation lumineuse et cohérente de René Girard dans son fameux ouvrage « La violence et le sacré » 1972, puis dans « Le bouc émissaire » 1981 et ses autres ouvrages. René Girard ne se satisfait pas de l'explication en cours par l'instinct d'agressivité réputé commun à tous les vivants. Il cherche et trouve, pense-t-il, une source proprement humaine dans la rivalité de deux désirs semblables portant sur le même objet convoité. Il appelle un désir mimétique, rivalitaire, ce ressort de violence qui, en effet, contient en germe le meurtre, droit d'aînesse contesté entre deux frères. Il est important de souligner dès le départ le caractère anthropologique, c'est le vocabulaire de Girard lui-même, de cette analyse des rapports entre le désir et la haine. Dans les cas exemplaires de rivalité mimétique, on assiste au renforcement mutuel du désir possessif et de ses obstacles dans ce qu'il appelle l'envie. Ce que les vieilles traductions de la Bible désignaient comme pierre d'achoppement, ce que nous appelons aujourd'hui scandale, l'obstacle sur lequel on trébuche. Oui, scandale, pierre d'achoppement. Plus on s'y meurtrit, plus on désire s'y meurtrir. Le comble est atteint quand on oublie l'objet initial de la rivalité mimétique et que le conflit s'emballant se referme sur ses effets cumulatifs. Pour sortir de cette impasse, de cette crise rivalitaire, déstructurante, des sociétés auraient inventé la réconciliation aux dépens d'un tiers, à savoir la scène réelle et non simplement métaphorique d'une expulsion victimaire collective sur le modèle du bouc émissaire. Sur cette base, Girard construit une théorie complexe partant de l'occultation et donc de la méconnaissance de ce processus à l'œuvre dans les religions et les régimes politiques, au moyen d'institutions proprement sacrificielles dans leur fond. L'illusion et le mensonge consisteraient alors dans la divinisation de la victime, ainsi soumise à l'expulsion sanglante, afin d'apaiser la rivalité mimétique. La violence de tous contre un, telle serait la formule du bouc émissaire. Le camouflage de ce processus meurtrier imposerait alors la tâche de désocculter les représentations où s'exerce la méconnaissance, donc la tâche d'une révélation au sens propre de déchiffrement. Or, selon Girard, cette conquête sur la surdité de l'histoire peut et doit prendre appui sur la seule exception, à son avis, à ce religieux violent, à savoir la proclamation évangélique de la victime pure, qui, malgré les apparences auxquelles les chrétiens eux-mêmes se sont trompés, n'est pas le produit du lynchage, mais l'expression de la pure offrande de soi. Vous voyez que Kant s'est reconnu ici parlant du symbole christique comme celui de l'homme agréable à Dieu qui donne sa vie pour ses amis. Tout se joue dès lors sur la différence entre la passion du Christ et le lynchage religieux. Girard reproche au christianisme historique, à l'exception de saint Jean, de n'avoir pas fait la différence entre la divinisation de la victime coupable, comme dans les autres religions, et la glorification des persécuteurs réputés innocents. Girard interprète Pâques après le moment de complicité des disciples au lynchage collectif comme la proclamation d'innocence qui dissipe l'illusion collective de la victime coupable. C'est ce que Girard appelle résurrection. C'est là ce que les croyants croient, c'est l'objet de leur croyance. Mais dans une conférence récente à laquelle j'ai assisté dans le cadre des rencontres internationales de Genève en 1999, Girard a déclaré ceci. Il y a une révélation évangélique et biblique. Il a ajouté « biblique », je pense qu'il avait référé, n'est-ce pas, au cantique du serviteur souffrant, des chants du serviteur souffrant. Il y a donc une révélation évangélique et biblique de l'illusion mythologique. Cette révélation est inséparable, assurément, de la résurrection, je le cite, du contenu religieux des évangiles, mais dans son principe, elle est distincte. Son contenu n'est pas religieux, mais purement anthropologique, scientifique. Fin de citation. Par là, Girard veut dire que la dénonciation du mythe sacrificiel est certes dépendante de la croyance des disciples, selon laquelle le Christ est bien l'envoyé de Dieu, mais que l'opération de désoccultation est devenue un phénomène culturel de grande amplitude, centré sur l'innocence de la victime. Ce sens est retrouvé par la modernité au plan de la dénonciation croissante de la violence collective. Je cite encore, « Cette signification moderne présuppose ce que j'appelle la révolution anthropologique du christianisme. » Fin de citation. D'où le ton de bienveillance de Girard à l'égard de la modernité. Le christianisme peut décliner en tant que pratique religieuse sa fonction anthropologique de révélation de l'innocence de la victime injustement sacrifiée demeure inébranlable. Elle ne peut même que s'amplifier dans la ligne de la substitution de la figure de l'agneau de Dieu à celle du bouc émissaire. Je veux dire maintenant pourquoi la conception de Girard ne me satisfait pas pleinement, ou plutôt ne me suffit pas, car je l'adopte comme entrée. Et vous allez voir à l'instant comment je reprends sur ce point la fin de ma première partie, le fil de ma première partie, très kantienne, concluant sur le thème de la bonté originaire et de la religion comme libération du fond de bonté. En effet, la thèse de Girard, selon moi, s'articule fort bien sur la question des obstacles mis à l'entreprise de libération de la bonté, à savoir précisément la rivalité identitaire qui ouvre le cycle de la violence, qui déclenche le lynchage, lance le processus de réconciliation aux dépens de la victime sacrificielle, pour s'achever dans la divinisation de la victime et la disculpation des agresseurs. En ce sens, la théorie de Girard est forte concernant le moment d'exhibition de la violence religieuse. Mais il y a un chaînon manquant concernant l'objet spécifique de la rivalité mimétique, première dans le cas du religieux. Sur quoi y a-t-il rivalité dans le religieux ? Rivalité mimétique. Girard est peut-être trop soucieux d'être reconnu comme scientifique dans son entreprise qu'il appelle anthropologique, de désoccultation de la violence cachée du système sacrificiel généralisé, mais je ne lui reprocherai pas le terme d'anthropologie puisque moi-même je le revendique pour mon travail philosophique. Anthropologie philosophique. Il est bien dans cette ligne. Mais, à la limite, n'importe quel objet désirable peut être objet de rivalité mimétique et donc capable de faire scandale, au sens qu'on a dit plus haut, de la pierre d'achoppement dans la relance de la rivalité mimétique. Ma suggestion est que la source créatrice du processus de libération de la bonté, de la façon que Kant a dit, c'est-à-dire par le truchement des grands symboles fondateurs, des traditions de croyance et des médiations communautaires de nature ecclésiale, donc que la source originaire de ce puissant soulèvement de bienveillance peut être en tant que tel objet de rivalité mimétique, de scandale, de lynchage, de réconciliation de tous contre un, de divinisation de la victime coupable et d'exonération des violents. C'est de cette façon que je vois la violence s'emparant de la source même de la vie. J'avoue que ce n'est pas évident, ni facile à faire comprendre. D'un côté, en effet, il faut donner au schème girardien un point d'application qui soit déjà religieux, par sa nature, et non un scandale quelconque. Mais il faut aussi donner à la conception kantienne de la religion dans les limites de la simple raison un prolongement permettant de désigner la source créatrice du processus de libération de la bonté. Cela ne peut se faire en restant dans les limites de la simple raison, mais en franchissant les bornes assignées à la raison théorique et pratique par Kant, et cela sur la ligne ouverte par les philosophes post-kantiens, Fichte, Schelling, et Schelling avant tout. C'est ce geste de transgression des limites de l'entendement qui va me donner la possibilité de dire quelque chose sur l'objet proprement religieux de la violence mimétique et donc de la violence du religieux, à savoir la prétention à accaparer la source, à se l'approprier dans la rivalité avec les autres bénéficiaires de la générosité fondamentale de la source. Oui, j'ai trouvé dans la philosophie de la religion de Schelling le thème puissant du fond sans fond, du Grund qui est Abgrund, du fondamental qui est abîme. Et alors, je me dis ceci, ce fond insondable, n'est-ce pas la source même de vie que tous reçoivent, mais que nul ne peut en clore. Et pourquoi y a-t-il alors rivalité mimétique? Sinon, parce que le religieux n'existe nulle part dans sa nudité innocente, dans son universalité indivise. Et s'il n'existe nulle part dans sa totalité immaculée, c'est parce que les religions sont comme les langues, les cultures, les sociétés politiques, à savoir soumises à la loi inexorable de la pluralité, de la dispersion et de la confusion, comme il est dit des langues dans le mythe hébraïque de Babel. Oui, la Babel des religions. Signifiante, vivifiante chaque fois pour chaque communauté religieuse, la source de vie l'est assurément, c'est la vérité du religieux. Mais la captation jalouse de la source reste le phénomène inquiétant historiquement attesté. la guerre des religions et les guerres de religion ont là leur origine. La fragmentation radicale, radicale comme on a dit du mal qu'il était radical, mais pas originaire, c'est là le donné même de l'histoire. Girard dirait le fait anthropologique premier. Et je l'accepte. Le religieux n'existe jamais que dans des religions. Et les religions, sous l'emprise du mal radical, dont nul ne connaît l'origine, sont les unes par rapport aux autres, dans un rapport de rivalité mimétique, ayant pour objet la source de vie, indivise dans son jet, divisé dans ses réceptacles. Si vous voulez, j'illustrerai par une métaphore mon idée du fond sans fond qui n'émerge à la surface de l'histoire que dans la pluralité compétitive des religions perverties en violence effective. La métaphore est celle que vous pouvez attendre, celle de la source et du réceptacle. La source déborde, mais le vase voudrait la capter toute. Il voudrait, le vase, l'enfermer. Ici commence une opération de captation qui demande que soit renforcée la résistance des parois de l'espace d'accueil, comme pour compenser la sorte de menace que constitue la puissance du flux. Ici commence la violence. On voudra clôturer sur les côtés, faute de pouvoir obturer vers le haut. Cette dialectique du trop-plein et de la finitude de l'espace d'accueil est vécue principalement à l'échelle communautaire, comme Kant le rappelait plus haut, en coordonnant les trois moments du symbole fondateur de l'adhésion de croyance et de la médiation communautaire. La communauté, ne pouvant tout contenir, s'emploiera à exclure. Pire, elle forcera d'entrer, selon un mot malheureux de saint Augustin, que j'admire tant, et que Pierre Bayle, au XVIIe siècle, devait s'employer à réfuter avec fureur. Exclusion, inclusion forcée, c'est la même chose. Renforcer les murailles, cela veut dire contenir par force ceux de l'intérieur, mais aussi expulser ceux qu'on ne peut contenir. Les figures de la rivalité mimétique à propos de l'objet inappropriable qu'est le fond sans fond, la source inépuisable, oui, ces figures de la rivalité mimétique sont innombrables. La métaphore que je viens de déployer se laisse facilement interpréter dans le langage qui était le mien au début de cette conférence et qui exprime bien le fil conducteur de toute mon œuvre récente, le langage de la capacité. Il y a, à l'égard de la source de vie, une capacité finie de réception et d'accueil. C'est cette capacité que figure le réceptacle aux cloisons que la peur et la haine renforcent. C'est cette capacité finie qui est mise à l'épreuve de toute expérience religieuse, de quelque confession qu'il s'agisse. On pourrait encore commenter la métaphore de la source et du vase avec l'idée de tonalité pascalienne de disproportion. Le fondamental, le fond sans fond, est en excès par rapport à nos capacités finies d'accueil. C'est dans cet excès, que j'appelle l'excès du fondamental, que la violence va se glisser sur le modèle girardien de la rivalité mimétique. Autre équivalence métaphorique de la disproportion, celle de la surabondance, comme dans la proposition de l'apôtre Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je retrouve cette idée de surabondance dans le rapport évoqué plus haut entre l'amour et la justice, l'amour qui ne compte pas et la justice qui s'exprime dans les rapports de juste proportion, d'équivalence, d'égalité exacte, de juste mesure. Je voudrais pour finir examiner les conséquences de mon hypothèse de travail dont la plupart restent problématiques. La première à prendre en compte est qu'il faut renoncer au rêve d'une super-religion. Certes, l'idée d'une source de vie qui se fragmente selon la capacité de réception des vases, pour continuer de filer la métaphore, évoque bien quelque chose comme un religieux également fondamental. J'accorde même bien volontiers qu'il y a un ou des sentiments religieux aisément transposables ou communicables d'une religion à l'autre. Ainsi, le sentiment de dépendance absolue dont parle Schleiermacher, que j'interprète, entre autres, comme la précédence de la parole à toute parole articulée en discours, mais aussi comme l'antériorité d'une énergie créatrice par rapport à mon désir. Je parle volontiers avec Paul Tillich, que j'ai déjà évoqué une fois, d'une confiance inconditionnelle, en dépit de tout démenti du malheur, « Ah, que la vie est belle », disait le film, d'un engagement sans restriction, en dépit de toute hésitation et de tout doute. Dans le même esprit, je me suis plus récemment engagé dans l'exploration des expressions émotionnelles les plus vives du souhait de bonheur, telle l'admiration pour la création, la jubilation dans la rencontre entre l'homme et la femme, l'aspiration aux dons les plus hauts dans la ligne de l'hymne à l'amour de l'épître de saint Paul aux Corinthiens. Oui, il y a un sentiment religieux, des sentiments religieux, à la racine de ce que je me plais à appeler l'optatif du bonheur. Il est le point brillant de la face lumineuse du religieux que Kant assimile trop volontiers à la folie religieuse, la Schwärmerei. C'est la donation qui précède toute captation, la transformation en menace. Mais la folie est l'indice suprême de beauté du religieux. Cela accordé et même revendiqué reste pour la réflexion et la spéculation le caractère inappropriable de la source de vie au plan de langage et de l'action. Et le vocable schellingien du fond sans fond n'instaure pas une religion déterminée. Selon la triple articulation du symbole fondamental, de la croyance intellectuelle et de la médiation communautaire. À cet égard, l'idée de fond sans fond, de fond en abîme, reste pour l'entendement une idée limite. Et les sentiments eux-mêmes, relatifs au fondamental, n'ont pas laissé de prendre forme dans un cadre de haute culture pour s'y articuler chaque fois différemment dans ce que j'appellerais volontiers la symbolique du bien. Il faut en accepter le verdict, les formes du religieux partagent l'état de dispersion et de confusion des langues et des cultures, comme il est dit dans le mythe de Babel. Cette conséquence peut être tenue pour l'aveu le plus honnête de l'épreuve de véracité dans le champ de la croyance religieuse. Il est alors tentant d'éluder et de contourner cet aveu en cherchant dans la sociologie des religions le substitut d'un religieux intégral que le mythe de Babel inviterait à représenter comme un paradis perdu qui n'a jamais existé au plan de l'histoire. La sociologie des religions voudrait proposer un tableau des religions où toutes seraient parcourues du regard et portées au rang d'objets d'observation, comme sur des planches d'entomologie. Il faut dire alors que chacune est annulée en tant qu'engagement personnel et au triple plan considéré en philosophie de la religion, plan de l'imaginaire symbolique, de la croyance intellectuelle, de la pratique communautaire. Ce premier ensemble de considérations en induit un second. Deuxième ligne de conclusion. À l'aveu de véracité fait suite un aveu de perplexité. N'avons-nous pas échangé l'idée de vérité universelle contre celle de relativisme radical ? Je réponds oui et non. Oui, si vous renoncez, comme je le propose et le pratique, à l'idée d'un point de vue absolu, d'un regard de surplomb qui nous est en effet refusé. Mais non, si vous attachez à la profession de relativisme, celle d'un perspectivisme mobile, en vertu duquel je pourrais indifféremment adopter un point de vue religieux ou l'autre. À l'encontre de ce nomadisme interreligieux, je soutiendrai l'idée que c'est toujours de quelque part, d'un point d'ancrage, qu'on aperçoit, qu'on entrevoit, qu'on approche en imagination et sympathie les convictions étrangères dans un mouvement de transfert de proche en proche, porté aussi loin que ce mouvement de transgression de mes propres barrières le permet. Je dirais pour moi-même, qui suis de tradition chrétienne réformée, que ce mouvement, que j'appelle d'imagination et de sympathie, me conduit parfois jusqu'aux abords du bouddhisme. Cette progression latérale, de proche en proche, ai-je dit, constitue le contraire exact d'une vision de surplomb prétendant embrasser la totalité du champ religieux. Au reste, les plus solides études de sociologie de la religion se cantonnent à une étude spécialisée de telle ou telle religion, au risque de n'avoir plus de critères du religieux comme tel. Mais cette approche scientifique est à la fois la plus modeste et la plus honnête. Mais elle laisse intacte la question de la vérité existentielle pour chacun et pour nos communautés de la religion, qui est l'enjeu même de la présente étude consacrée à la croyance religieuse dans le champ des convictions. Est-ce à dire que nous restons entièrement désarmés après ce double aveu de l'absence d'un universel interreligieux et celui d'un certain relativisme qui se laisse taxer de perspectivisme? Je voudrais ajouter une considération qui m'est suggérée par l'analogie de Babel, plusieurs fois évoquée ici. Si les ensembles religieux peuvent être comparés à des ensembles linguistiques et culturels, ne pouvons-nous pas invoquer le seul remède connu à la dispersion et à la confusion des langues, à savoir la traduction? J'ai anticipé cette suggestion en parlant à l'instant d'un ancrage à partir duquel je considère de proche en proche les confessions ou les religions selon leur degré d'éloignement par rapport à ce point d'ancrage. Ne ressemble-t-il pas au rapport que nous avons entre notre langue maternelle et les langues que nous appelons étrangères? Là non plus, il n'y a pas de langue universelle. Néanmoins, tout homme paraît capable d'apprendre, outre sa langue, celle d'un pays voisin ou lointain. On a toujours traduit. Commerçants, voyageurs, diplomates, espions, sous le contrôle des bilingues, ont toujours su franchir par la pratique d'une langue étrangère la barrière linguistique. Eh bien, n'est-ce pas à quelque chose de semblable à cette hospitalité langagière que se conforme la compréhension de proche en proche des croyances religieuses dites étrangères et en général des convictions de toutes sortes dont l'exploration de la croyance religieuse ne constitue qu'un chapitre? Je voudrais tirer une ultime conséquence de mon interprétation du phénomène de la violence dans le champ religieux. C'est une conséquence pratique, plus assurée que les précédentes, et relevant de ce que j'appelle la sagesse pratique. Elle concerne l'usage quotidien de la tolérance. À la lumière de ce que je viens de dire sur l'hospitalité langagière, transposée du plan de la traduction à celui de la rencontre des autres religions et des autres convictions, la voie de la tolérance peut être vue comme une initiation progressive, non comme une pratique facile de plein pied, si j'ose dire, mais comme une ascension ardue. à son degré zéro, au plus bas. La tolérance dit, et c'est la tolérance de l'intolérant, « Je ne supporte pas ce que vous croyez, je le désapprouve, mais je ne peux l'empêcher. Je le tolère au sens que je ne puis l'empêcher. Je voudrais l'empêcher, mais je n'en ai pas le pouvoir. » Eh bien, c'est à ce stade que je recroise la violence rivalitaire. À un second degré plus positif, je garde la conviction que c'est moi qui détiens la vérité, mais je vous reconnais, par complaisance, le droit de professer ce que je tiens pour faux. Et je le fais au nom du principe de justice, à savoir que vous avez un droit égal au mien de professer ce que vous croyez, bien que je le tienne pour faux. Par là, c'est le droit à l'erreur que je reconnais. Mais à ce stade, je suis déchiré en moi-même entre la vérité que je crois détenir unilatéralement et la justice, qui est une reconnaissance de l'autre, mais sur un autre plan que la vérité. Je dirais que le principe de justice ici invoqué contre le principe de vérité peut être formulé dans ces principes « toute autre vie vaut autant que la mienne » et donc « toute autre croyance ». Mais la justice tranche alors sur la vérité. Je fais un pas de plus en direction d'un approfondissement de mon rapport avec le contradicteur, mon rival en croyance. Je dirais ceci à ce troisième stade. Mon adversaire a peut-être lui aussi une part de vérité, mais je ne sais pas laquelle. C'est là la version perspectiviste de la tolérance. L'autre voit un côté des choses que je ne peux pas voir, car nos positions sont insubstituables. Il en est ainsi, comme dans ce jardin du bouddhisme zen que je visitais récemment à Kyoto, 15 pierres sont posées sur un petit océan de sable, mais il n'est pas d'angle sous lequel je puisse les embrasser toutes d'un même regard. Il s'agit à ce stade d'une crise de l'idée de vérité, déchirée en elle-même. J'ai dépassé celui du simple conflit entre vérité et justice, je suis entré dans le conflit de la vérité avec elle-même. Vient alors un degré supérieur, et c'est là que je pourrais surmonter la violence si je pouvais m'y tenir. À ce stade plus avancé, je dis ceci. Au creux même de ma propre conviction, de ma propre confession, je reconnais qu'il y a un fond que je ne maîtrise ni par le langage, ni par l'émotion, ni par l'action. Je discerne dans le fond de mon adhésion une source d'inspiration qui, par son exigence de pensée, sa force de mobilisation pratique, sa générosité émotionnelle, excède ma capacité d'accueil et de compréhension. Mais alors, la tolérance arrivée à ce sommet risque de basculer de l'autre côté de la pente, celui du scepticisme. Toutes les croyances ne se valent-elles pas? Les différences, c'est le cas de le dire, ne deviennent pas indifférentes? La difficulté est alors de se tenir sur la ligne de crête où ma conviction est à la fois ancrée dans son sol, comme dans sa langue maternelle, mais ouverte latéralement sur les autres croyances, les autres convictions, comme dans le cas des langues étrangères. Il n'est pas facile de se tenir sur cette ligne de crête. Merci.
Merci. pour une conférence très fascinante. Beaucoup de gens aujourd'hui se diraient athées. Donc, est-ce que les athées peuvent pouvoir réussir là?
Beaucoup de gens se diraient.
Est-ce que vous voulez répéter la...
Oui, beaucoup de gens aujourd'hui diraient qu'ils sont athées. Ils sont athées. Donc,
oui.
Ils sont athées. Est-ce que les athées aussi peuvent boire à la fontaine dont vous avez parlé? Peut-être des lecteurs de Spinoza ou peut-être de Fichte diraient que oui. Et deuxièmement, dans ce cas-là, est-ce que les mêmes problèmes de dialogue se posent entre athées et gens d'autres religions qu'entre deux religions? Merci.
Je dirais qu'en règle générale, il faut admettre qu'il y a des différends insolubles, inextricables. Et l'idée d'une sorte d'accommodement de tous avec tous n'est pas possible. Donc, mais la frontière avec l'athéisme ne me paraît pas poser des problèmes plus difficiles que les différences à l'intérieur du religieux qui sont parfaitement scandaleuses, c'est le cas de le dire. Et parce qu'on pourrait dire mais l'opposition entre croyance et non-croyance, ben, elle est en quelque sorte attendue parce que notre culture précisément est telle que le fond hébraïque et chrétien a été confronté dès le début au fond grec et avec toutes les possibilités d'opposition. Et moi-même, dans un petit livre, j'avais accepté l'expression de la critique et la conviction. Donc, mais alors, je dirais ceci, que vous avez dû remarquer que je n'ai pas tellement employé le mot Dieu. J'ai employé le mot fond sans fond, réservant par là la possibilité d'un champ de variation extrêmement vaste et sur lequel je suis très prudent, puisque j'ai évoqué le bouddhisme et je suis touché à bien des égards par certains aspects de la compassion bouddhique, le sens de l'éphémère, que je rejoins quelquefois avec Kierkegaard lorsque il parle. Et dans l'évangile, il y a la ligne de l'insouciance. Bon. Ne vous occupez pas du lendemain, les lys des champs, les oiseaux du ciel, le sème et le moisseau. Il y a une nuance d'un souci, si vous voulez. C'est-à-dire, on peut contrer. Et alors, je dirais qu'il y a eu un travail conceptuel sur le mot Dieu. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi sur les façons de nommer Dieu, en particulier dans la Bible hébraïque, multiples, par le narratif, par le législatif, par le... Bon, et alors, vous avez le mot je suis celui qui suis. Donc, je deviens qui je deviens, traduisait Buber et Rosenzweig, et donc une sorte de point de fuite, n'est-ce pas, de l'intérieur même de la croyance vers, je dirais pas, en direction, vous voyez, je suis très prudent, mais en même temps, j'ose le dire, que le caractère personnel de Dieu peut-être n'épuise pas. Lévinas avait plusieurs fois côtoyé ça aussi avec le « il y a ». N'épuise pas la possibilité du religieux. Moi, je dirais d'une façon alors plus assurée, ce que nous nommons Dieu est la source de personnalisation. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas être moins qu'une personne puisqu'il produit de la personnalisation. Mais est-il une personne? Est-ce que là, nous ne sommes pas dans l'imaginaire au sens de faire une idole à notre ressemblance? Mais comme nous parlons de la volonté de Dieu, nous parlons de l'intelligence, donc nous faisons de la psychologie divine. Alors, dès que vous avez une psychologie, vous avez un sujet psychologique. Bon, mais alors là, je dirais que, à la fois philosophiquement, mais aussi sur le plan religieux, source de vie. Moi, je le partage d'ailleurs avec Michel Henry, dans son dernier livre que j'admire énormément sur l'incarnation. Source de vie. Mais alors, source de vie, est-ce que source de vie, c'est nécessairement du personnel, déjà du personnel, ou c'est la puissance du personnel? Vous voyez, alors, je suis ouvert, donc, parce que je me dis quelquefois que ce que l'athéisme, mais en même temps je méfie de la récupération, bien des fois l'athéisme c'est le refus d'une certaine idée de Dieu. Bon, et donc est-ce que j'ouvre un champ assez vaste pour créer une région de rencontre ? Voilà, je ne sais. Mais aussi c'est la part critique de ma propre conviction qui a été comme, bon, qui est comme oui, qui est comme non seulement souligné, mais absolutisé, si vous voulez, dans l'idée que la raison est donc exclusive de la croyance, disons. Le rationnel exclut comme irrationnel la croyance. Mais là, il y a un front, c'est ainsi. Et on ne peut que chacun offrir à l'autre jeter le meilleur de sa propre conviction. Dans une morale de la discussion qui repose sur le partage égal de la parole. Voilà.
Dans cet ordre d'idées, alors la conviction laïque, comment la placez-vous ?
Oui, c'est un mot qui n'a pas paru dans mon exposé. Hein. Il aurait pu, à propos de la tolérance, oui. Mais je ne l'ai pas employé, pourquoi ? Parce que je pense que c'est un mot politique au sens fort du mot. Je veux dire que c'est une règle à citer. C'est une règle à citer. Cela veut dire deux choses, me semble-t-il, que l'État, en tant qu'organisation des pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire, n'a pas de religion. Donc il est l'espace commun aux religieux et aux non-religieux. Il est laïque en ce sens par abstention. Mais il y a un deuxième sens du mot laïque, qui est un sens donc d'engagement personnel, du refus du religieux au titre personnel et à titre communautaire. Et donc ici, le laïque est en guerre, si vous voulez, avec le religieux. Alors, moi, je ne voudrais pas mêler les deux sens du mot laïque. Le laïque comme laïcité d'abstention de l'institution, de la cité, et puis la laïcité comme conviction, où je rejoins pas seulement l'athéisme ou le rationalisme qui peut être anti-religieux. Et la France est particulièrement vigoureuse, si je peux dire, dans ce domaine-là. Et alors, moi, je vois entre les deux une laïcité que maintenant, je vois que même dans le discours du ministre de l'Éducation nationale, il apparaît ce qu'il appelle laïcité ouverte. Bon, qui peut être le langage commun à des religieux et des non-religieux, c'est-à-dire que c'est une discussion légitime entre nous et qui pose un problème délicat maintenant à l'enseignement. Qu'est-ce qu'on va dire sur la religion et les religions à l'école ? Parce que l'école, n'est-ce pas, a une position extrêmement difficile. Il est à la fois, c'est une figure de l'État, dans l'école est publique comme l'État, donc partage la laïcité d'abstention. Mais d'autre part, l'école est une partie de la société civile dans laquelle il y a des convictions qui s'opposent, entre autres des religions et des non-religions, etc. Et alors, l'école doit, je peux dire, arbitrer entre la laïcité d'abstention de l'État en tant que tel, et puis la laïcité de combat, éventuellement, qui était de combat contre l'intolérance religieuse, etc. Bon, c'est notre histoire. Et donc, cette position très difficile de négociation entre plusieurs formes de laïcité. Mon ami Guy Coq s'est exprimé plusieurs fois sur ce plan-là.
J'ai retenu votre phrase, si je l'ai bien notée. Je ne maîtrise, ou l'homme ne maîtrise, ni par le langage, ni par l'émotion, ni par l'action, la capacité de compréhension. Est-ce qu'on peut dire, justement...
La capacité de compréhension.
La capacité de compréhension. Vous avez dit, ce n'est basé... Enfin, je ne maîtrise ni par le langage, ni par l'émotion, ni par l'action, la capacité de compréhension. En tout cas, c'est dans mes notes, peut-être je me suis trompé. Mais ce que je voulais vous demander, est-ce que l'art, et notamment l'art musical, n'est pas une approche qui rend plus compréhensif certains mystères, et en particulier ça rend plus compréhensif que, par exemple, le langage.
Compréhensible.
Est-ce que l'art musical ne serait pas plus compréhensif que le langage?
Je ne me reconnais pas tout à fait dans la formule que vous avez dite. Je dis pas tout à fait parce que, bon, il y a certains aspects qui vont dans ce sens-là. Mais j'ai dit la compréhension au sens de comprendre, c'est-à-dire de contenir, d'enfermer. Alors, le mot comprendre, je comprends quelque chose, Oui, mais si on dit par comprendre, ça veut dire, au contraire, le déployer, en l'expliquant, le déployant. Alors là, j'ai dit tout le contraire, puisque j'ai dit qu'il y avait d'abord des sentiments fondamentaux, comme, bon, et j'ai dit quelque chose, puisque j'ai dit sa source de vie. Donc, j'ai dit quelque chose, puisque j'ai parlé de fond sans fond. C'est pas du silence, c'est pas du mutisme, mais c'est un discours, je peux dire, à la limite, vous voyez, un discours des confins, vous voyez. Et alors, en ce sens-là, on comprend le bord, mais on ne l'inclut pas, vous voyez.
Prends une question ici.
Oui, excusez-moi, mais bien entendu, le musical, écoutez, je suis... Il n'y a pas de jour où je n'entends pas Bach, enfin, si vous voulez, bon, pas bon seulement les cantates, mais alors le plus rigoureux de l'art de la fugue, des clavecins bien tempérés, l'offrande lyrique. Bon, alors, ça, c'est du religieux, vous voyez, qui n'est pas de piété, mais qui est, je dirais, de la clarté de l'intelligence. Une sorte de purification extrême. Bon, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est bien. C'est bien que vous en parliez.
Une question ici, vous n'avez pas de micro ? Il n'y a pas...
Monsieur le professeur, il semble qu'avec le terme religion, vous y mettiez le terme de bien, c'est-à-dire, c'est en quelque sorte, la religion, c'est non seulement aimer au moins un Dieu, mais faire le bien. Et moi, je crois qu'il y a certaines religions qui impliquent que faire le bien, c'est aussi s'imposer par la force et par là faire le mal. Et je voulais vous dire aussi, est-ce que la philosophie, qui est aussi le bien un, s'apparente en quelque sorte à la religion ?
Je n'ai pas évoqué les possibilités de donner plusieurs sens au mot religion. Puis j'ai pris une ligne. Bon, je suis parti avec Kant, il fallait que j'aille jusqu'au bout, jusqu'à en sortir avec Schelling. Bon, mais j'ai croisé comme ça le mot bonté, et pas seulement le bien, la bonté. C'est-à-dire, le bien, c'est une idée, mais la bonté, c'est une attitude. Hein, une attitude. Un rapport au monde, comme on dit maintenant. Alors là, je dirais que pour moi, ça, c'est le fond du fond. Mais la bonté, je ne la connais pas. Hein. Je n'en connais que des fragments ou des reflets avec la bienveillance. Il m'est arrivé récemment d'écrire un peu des propos de fin de vie, si vous voulez, qu'il faut aussi sortir de la culpabilité et arriver à l'égard de soi-même autant de bienveillance qu'à l'égard des autres, ce qui n'est pas facile. Bon, alors, vous voyez, le mot « bien » n'est pas pour moi une idée abstraite. C'est une manière de se tenir, de se maintenir. Oui. Alors, c'est la bonté qui est toujours la bonté de quelqu'un, ou bien la bonté d'un fruit. On dit « cela est bon ». Mais l'adjectif « bon », c'est très remarquable. Il peut se distribuer sur les choses, sur les personnes, sur les actions. Eh bien, c'est bien. Qu'il en soit ainsi.
Non, je crois que... Dernière question, là.
Dernière question, oui, voilà, on entend un petit peu. Oui, c'est pas facile. Voilà, je trouve que cet exposé était absolument brillant. Et à travers les philosophes que de Kant à Schelling, j'aimerais savoir, surtout le deuxième, là, qui était... Bon, Girard, j'ai pas. Oui, Girard. Les notions, qu'est-ce qu'ils ont pu, comment ils ont pu expliquer l'Esprit Saint?
J'ai pas compris. Vous voulez...
La question est la suivante. Les trois philosophes. Oui, je sais pas ce qu'on entend entre.
L'audition n'est pas très bonne.
Oui,
ici.
Pas très bonne. Alors, les trois philosophes entre Kant, Gérard et Schelling. Gérard. Oui. Quelle a été leur définition de l'Esprit Saint?
Quelle a été leur définition de l'Esprit Saint?
Il ne faut pas demander trop à Kant là-dessus. Oui, mais... Non, parce que il reste un esprit très critique. Eh bien, c'est bien, c'est comme un homme des Lumières. Mais en même temps, il n'y a pas de doute que pour lui, il n'écrirait pas un livre sur la religion, l'Église à sa présence, s'il n'y avait pas une problématique légitime, qui voit d'ailleurs très embrouillée et précisément très marquée par la violence, finalement. C'est ce que je trouve chez Girard. Mais moi, j'ai bien d'autres références philosophiques, si vous voulez, ne serait-ce que Bergson, auquel mon dernier livre est une espèce d'hommage, finalement, à Matière et Mémoire. Et donc, le Bergson, je le prends bout en bout, depuis l'essai sur les données immédiates de la conscience, mais aussi l'élan vital, bon, et puis les deux sources de la morale et de la religion. Moi, je m'en trouve assez bien dans les deux sources de la morale et de la religion. Il y a une religion fermée, et puis ce qu'il appelle la religion ouverte, qui est d'ailleurs pour lui celle des prophètes. Et donc, la religion de Bergson, mais ou le religieux, plus exactement, le religieux selon Bergson. Mais j'écoute aussi Nietzsche, avec sa charge à fond contre ce qu'il a perçu de négation de la vie dans le christianisme historique. On n'a jamais fini de s'expliquer avec Nietzsche. Moi, je me rappelle un de mes amis, autrefois, qui était un excellent professeur de Cagnes. À la fin de sa vie, il était très malade, il ne lisait plus que Pascal, Dostoïevski et Nietzsche. Ça me paraissait un très beau trio.
Bon, nous devons avoir quitté cette salle pour...
Moi, j'ajouterais Shakespeare.